Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel, à l'écoute de notre émission.
Bonjour, bonjour Jérusalem.
Avec en régie
Émilie
et Elisabeth à mes côtés.
Bonjour Christine, bonjour Émilie. Je l'appelle Émilie Jolie parce que je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très jolie. Donc, bonjour Christine. Alors, voulez-vous nous faire un dernier point sur la société juive contemporaine que nous avons évoquée dans nos deux dernières émissions?
Alors, mais je crois que nous l'avions déjà terminé à la société juive dans l'émission précédente. Mais bon.
Mais peut-être quelques mots, je ne sais pas.
On avait fait deux émissions.
Bon, ah,
enfin, c'est pas grave. Alors, moi, je voudrais tout simplement.
Donc, on ne fait pas de dernier
point. Puisqu'on l'a déjà fait. Alors, moi, je voudrais débuter cette émission, justement, en restant en France. Et je voudrais vous révéler l'incroyable histoire d'une œuvre d'art retrouvée par hasard. Et tout d'abord, je voudrais remercier Christophe Lafontaine pour les sources qu'il me transmet très régulièrement et dont je me sers pour préparer notre émission.
Bien, voilà. Bonjour Christophe. Si
vous oui, écoutez, mes salutations à Christophe.
Pas la chance
je
ne
sais pas s'il nous écoute,
alors.
Mais je sais que de temps en temps, il y va.
Voilà. Alors, de quelle œuvre d'art, de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, sur un gros chantier qui vient de s'ouvrir dans la future boutique Oscar de la Renta, rue Marignan, à Paris, on a découvert une superbe toile.
Ah, d'accord. Belle toile, alors. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de cette toile, alors?
Alors, pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que cette toile mesure près de 6 mètres de long et qu'elle daterait du XVIIe siècle et qui pourrait être l'œuvre d'un élève de Lebrun.
Ah oui? Alors, j'imagine que cela a été une très, très grande et heureuse trouvaille qui n'arrive pas souvent.
C'est bien sûr, hein, car même les spécialistes n'en ont pas cru leurs yeux. Dans cette future boutique devaient se dérouler des défilés de la Fashion Week et la toile se trouvait collée au mur derrière des panneaux mal joints.
Incroyable. Et alors, que s'est-il passé après?
Eh bien, la direction d'Oscar de la Renta a recruté rapidement un restaurateur, Benoît Janson, et la Renaissance depuis 2 mois permet enfin d'admirer cette toile du XVIIe siècle avec ses couleurs d'origine qui réapparaissent petit à petit, malgré les anciens repeints et le travail de restauration en cours.
Alors c'est vraiment une incroyable histoire, mais qu'est-ce qu'on peut en savoir?
Eh bien, en fait, l'histoire dit que c'est la représentation d'un ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, devant Jérusalem.
Alors, est-ce que c'est une certitude ou juste une imagination?
Alors, à l'origine, cette œuvre était présentée sur un châssis. La toile a ensuite été démontée, puis roulée, avant d'être marouflée sur ce mur, selon les constatations de cet expert, M. Janson, qui est un expert en conservation et restauration. Le travail a été fait à l'époque dans les règles de l'art, avec une bonne adhérence, appliquée au mur de façon bien plane. Le vernis avait ensuite jauni et était totalement oxydé, les couleurs totalement éteintes. L'encrassage du temps ayant fait son travail, on constate aujourd'hui la belle qualité esthétique, du tableau et sa bonne qualité technique.
Voilà ce qu'il en dit ce monsieur. Et alors, est-ce que tu connais le nom de cet ambassadeur, Christine?
Oui, 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 on le connaît au chapitre des certitudes. Il s'agirait de Charles-Marie-François Ollier, marquis de Nointel, ambassadeur à Constantinople sous Louis XIV, enfin de Louis XIV, qui y est montré avec son escorte devant Jérusalem. Alors, il y a des cavaliers qui sont vêtus à la mode du grand siècle, entrant dans la ville, et on y voit très distinctement, au loin, les remparts, la mosquée d'Omar et le mur des Lamentations. L'esprit est très orientaliste et la végétation suffisamment luxuriante.
Alors, est-ce que cet ambassadeur est connu? Qu'en sait-on exactement?
Alors, il est connu pour avoir fait réaliser 4 grandes toiles relatant ses épopées au Moyen-Orient en 1673. Alors, ces toiles ont été installées sur 4 grands murs d'un salon d'apparat à Constantinople. À son retour en France, à la fin de ses fonctions, le marquis de Nointel, a remporté toutes ses collections avec lui, dont certaines pièces trouve actuellement au Louvre. Il aurait ainsi roulé ses toiles pour les maroufler.
Pour les ramener? Alors, où sont les autres?
Alors, l'une d'entre elles est actuellement au musée d'Athènes, la deuxième à la boutique Oscar de la Renta, et les deux autres, eh bien, elles ont disparu.
Eh ben,
on ne sait pas où elles sont.
Elles se réapparaîtront quand les autres, alors. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui a peint l'œuvre?
Alors, deux noms se battent en duel. Il y a Jacques Carré et Arnould de Vuez.
Ah, Et pourquoi ne sait-on
pas ? Voilà, parce que le premier aurait dessiné la vie du monde, notamment sur les pas du marquis de Nointel, alors que d'autres estiment que l'auteur de cette œuvre serait plus sûrement le peintre Arnoul de Vuez, proche de Charles Lebrun à la cour de Louis XIV, car il aurait lui aussi pris part à un voyage d'études à Constantinople, organisé finalement par le marquis de Nointel.
Bon, voilà donc une affaire à suivre. On le saura très certainement à un moment donné.
Oui, sans aucun doute. Alors, on va revenir maintenant en Israël et je vais vous parler d'une base militaire perse qui a été mise au jour au nord du pays.
Alors, de quand date cette découverte ?
En fait, il y a deux phases de fouilles. La première a été faite en 2016 et la seconde en 2018.
Vous parliez, Christine, du nord d'Israël, où a été faite cette découverte. Alors, quel est l'endroit exact ?
Alors, c'est à Tel Kaizan que les archéologues ont découvert les ruines d'un ancien campement militaire probablement utilisé par le persan Cambyse II comme lieu de rassemblement pour envahir l'Égypte il y a environ 2500 ans.
Alors, juste, Christine, un petit rappel de ce moment d'histoire perse, peut-être ?
Pas de problème, avec plaisir. Alors, Cyrus le Grand, le roi achéménide, vers 559 à 530 avant Jésus-Christ, a régné sur un empire qui s'étendait de l'Indus à la Lydie, ancien pays d'Asie mineure situé sur la mer Égée. Son fils Cambyse II, roi de 529 à 522 avant Jésus-Christ, poursuivit son œuvre en conquérant la Phénicie, Chypre et surtout l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ. De sorte que l'Empire perse rayonnera sur le Moyen-Orient et au-delà pendant deux siècles, jusqu'à bien sûr l'arrivée d'Alexandre le Grand.
Oui, parce que n'oublions pas que l'Indus se trouve en Inde.
Oui.
Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui s'étend énormément. Alors quelle était la superficie de tout ça, alors.
Alors, telle, ça veut dire colline. Hein,
oui, c'est
déjà,
ça.
De terre, colline.
Une colline telle.
Une colline telle.
Comme Guillaume Tell, non, rien à voir.
Alors, les archéologues qui ont fait cette découverte l'estiment environ 6 hectares et suggèrent qu'il a peut-être fait partie de l'un des nombreux avant-postes, à l'instar de Tell al-Foukar, c'est-à-dire Acre actuellement, Tel Kurdana actuellement Tel Afek et Tel Abou actuellement Haïfa, qui ont joué un rôle dans le soutien du corps expéditionnaire persan lors de sa constitution pour préparer la campagne de Cambyse II contre le pharaon Psamétique III.
Alors, s'il en est fait état, peut-on penser que leur hypothèse va dans le sens des sources historiques ?
Je le pense sans aucun doute. En effet, même l'historien grec Strabon, 60 ans avant Jésus-Christ, mort autour de 20 ans, enfin,
de notre ère.
Après Jésus-Christ, décrit la ville d'Acre à l'époque, comme un lieu de rendez-vous pour les Perses, pour leur expédition contre l'Égypte. Et toujours, selon lui et Diodore de Sicile, 1er siècle avant Jésus-Christ, le roi Cambyse II aurait attaqué l'Égypte après avoir rassemblé une immense armée dans les plaines proches de la ville d'Acre.
Alors, c'est bien ce qui est bien le cas, tel Kaïsen, n'est-ce pas, Christine ?
Oui. Et de plus, pour mener à bien l'invasion du pays des pyramides, on sait que Cambyse II s'est appuyé sur une armée composée de soldats persans et de mercenaires grecs, ainsi que sur l'aide d'une flotte de navires phéniciens, ainsi qu'à la découverte de céramiques grecques et phéniciennes dans la fameuse couche persane de Tel Kaïsen. Confirme bien, et la découverte de céramique grecque confirme bien que cette zone faisait partie du camp de base de la grande campagne achéménide qui se solda par une large victoire à Pélouse, c'est-à-dire à l'extrême est du delta du Nil, à 30 km au sud-est de la ville de Port Saïd.
Voilà un nom qui nous paraît beaucoup plus proche pour nous situer. Alors, que se passe-t-il ensuite ?
Alors, Cambyse II fit ensuite tomber le pharaon Psamétique III à Memphis, ville qui occupait, comme on le sait, une place stratégique à l'entrée du delta du fleuve égyptien, le Nil. En conséquence, Cambyse II devint le premier roi perse à gouverner l'Égypte ancienne en inaugurant la 27e dynastie, c'est-à-dire entre 525 et 401 avant Jésus-Christ, en se faisant élire pharaon par le clergé de Saïs, la capitale de la dynastie précédente. Donc là, c'est vrai qu'il faudrait avoir un peu la connaissance,
la connaissance
des pharaons d'Égypte. Mais ça, je pense
que ça va être une émission à réécouter quelques fois et en prenant des notes, en prenant un dictionnaire, et ensuite on se replongera mieux là-dedans. Alors nous allons maintenant faire une petite pause musicale pendant que vous allez vous retrouver au XXIe siècle, tout doucement, n'est-ce pas ? Et nous reprendrons le fil de notre émission après ça. Alors, nous revoici sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bonjour Jérusalem avec Christine et notre belle Émilie en régie. De quoi nous allons parler maintenant, Christine ?
Alors, eh bien, voilà, je voudrais vous parler de l'inauguration du Centre des visiteurs qui a eu lieu le mois de février de cette année et qui est un musée qui a été conçu pour les pèlerins lors de leur visite en Terre Sainte, qui souhaitent enrichir leur expérience.
Alors, où se trouve ce nouveau centre ?
Alors, ce centre se situe à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, près du village d'Abou Gosh. C'est un centre qu'on appelle Saksoum, qui est géré par l'Opus Dei et abrite un espace visiteur destiné à l'accueil des touristes, ainsi qu'un espace de congrès réservé à des réunions privées ou des conférences.
Alors, pourquoi cette appellation Saksoum, Christine ?
Le nom latin Saksoum signifie rocher. Et il fait référence au surnom que Saint José Maria, Escriva de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, a donné à son ami et collaborateur, qui deviendra plus tard le prélat de l'œuvre, Beato Alvaro del Portillo. Bien sûr, tout ça en raison de sa loyauté et de sa force d'esprit.
Donc, Saksoum veut dire rocher, voilà, retenir. Alors, qui a pris la décision de construire ce centre ?
En fait, ce n'est pas du tout anodin, hein, car cette région d'Abou Gosh est particulièrement importante en raison de son patrimoine historique et biblique. Dans ces lieux se trouvait le Kiryat Yerim, qui signifie « village forestier ». Un endroit où l'Arche de l'Alliance aurait été reçue avant même la fondation de Jérusalem et la construction du Temple.
Alors, c'est effectivement un cadre tout à fait évocateur.
Évocateur, bien sûr, puisque ce centre sert à la fois de lieu de visite pour les pèlerins et de repère pour les membres de l'Opus Dei, ce qui permet ainsi une perspective historique, géographique et biblique pour mieux comprendre les événements les plus significatifs de l'histoire.
Alors, en quoi consiste ce parcours initiatique ?
Alors, il y a plusieurs étapes, mais parmi les différentes étapes de ce parcours, il y a la carte de pierre qui suit les traces d'Abraham et de Moïse sur, comme son nom l'indique d'ailleurs, une carte de pierre gravée à l'étage de la cour. La chronologie qui retrace les événements de l'histoire de la Terre Sainte, représentée par une ligne de temps placée sur les murs, et la salle du 1er siècle qui guide le visiteur en décrivant la complexité de la vie quotidienne vécue en Judée romaine du 1er siècle de notre ère.
Alors merci Christine de nous avoir fait connaître ce centre très intéressant. Je pense que ceux qui auront le plaisir de faire ce voyage, ils pourront s'enrichir avec tout ça. Voilà, alors maintenant, quel est le prochain sujet dont vous allez nous parler peut-être ?
Eh bien, un vent de révolte qui secoue en ce moment l'université de Bethléem, qui a suspendu ses cours jusqu'à nouvel ordre.
Ah, et pour quelle raison ?
Alors, le mercredi 6 février de cette année, le vice-chancelier de l'Université de Bethléem a annoncé la suspension des cours en raison de la perturbation constante des cours par les membres du Sénat des étudiants après qu'ils aient, ces étudiants, suspendu le processus d'éducation à 4 reprises, et ce depuis le 18 janvier, début du nouveau semestre.
Alors, il y a bien un motif ou des motifs, j'imagine ?
Oui, oui, il y a des motifs, bien sûr, après plusieurs tentatives de dialogue entre le Sénat des étudiants. Alors, quand on parle de Sénat des étudiants, c'est un groupement, espèce d'association, et les services de finances de l'université, pour trouver une solution concernant l'augmentation des frais de formation pour les facultés d'éducation et de sciences infirmières et la possibilité de payer les frais de scolarité en plusieurs fois. La décision a été prise de suspendre les cours le 25 janvier dernier, justement, par le Sénat des étudiants.
Et alors, quelle était la réponse de l'université à tout ça ?
Eh bien, le 4 février, après des discussions infructueuses entre l'administration et les étudiants et le Sénat étudiant, M. Sansure, vice-président exécutif de l'Université de Bethléem, a envoyé un courrier électronique à l'ensemble du corps professoral, du personnel et des étudiants pour les informer que les cours devraient se dérouler comme d'habitude et que les étudiants qui ne se présenteront pas aux cours seront marqués comme étant absents le 25 janvier.
Mais pour quelle raison le Sénat et les étudiants protestent-ils maintenant ?
Eh bien, l'administration de cette université précise que l'augmentation des frais de formation avait été mise en place déjà en 2016 et payée par certains étudiants au cours de la dernière année académique et aussi de l'année en cours.
Alors, ces suspensions ne risquent-elles pas de retarder les examens finaux, la remise des diplômes de cette...
Oui, moi je pense. Et aussi, sans parler de la possibilité d'annuler les semestres se déroulant au printemps et en été.
Alors, c'est pourquoi il y a une troisième suspension du cours le 6 février, organisée par le Sénat des étudiants, si j'ai bien compris.
Oui. Et c'est alors que le vice-chancelier a décidé de suspendre les cours, car l'administration n'est pas en mesure de fournir l'éducation promise au Sénat étudiant tant que celui-ci agit de façon à perturber les cours. Donc, l'administration a décidé donc que ces cours seront suspendus jusqu'à ce qu'il soit certain que ces interruptions n'auront plus lieu.
D'accord. Mais ils sont, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui va l'emporter.
Voilà, là, on va toucher aux finances, bien sûr.
Exactement. Alors, quelle est l'aide financière dont bénéficie l'université ?
Alors, selon l'Université de Bethléem, elle prend en charge plus de la moitié du coût des cours grâce à des financements externes. En outre, cette université catholique devait recevoir 1,3 million de dollars chaque année de l'autorité palestinienne, mais que cela ne se produit plus maintenant.
Alors, quelles sont les causes de ce manquement, Christine ?
Alors, il faut rappeler que depuis 2018, l'administration américaine a pris des mesures pour supprimer tout financement et toute aide à l'autorité palestinienne et aux Palestiniens. En janvier 2018, une aide de 125 millions de dollars réservée à l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, d'un montant de 65 millions de dollars, avait été gelée. Et le 25 août, elle avait réduit de 200 millions de dollars l'aide destinée à l'autorité palestinienne pour la santé, l'éducation et le financement de la société civile.
Bien, donc attendons la suite, n'est-ce pas? J'espère quand même qu'ils vont pouvoir reprendre leurs cours, ces étudiants. Alors, peut-être on change de sujet et quel est le thème?
On va peut-être parler de la baisse conséquente du pourcentage de chrétiens en Syrie.
Alors, je suppose que c'est bien après les 8 années de guerre civile dans ce pays, n'est-ce pas, Christine?
Oui, Elisabeth, car à l'occasion d'un événement organisé à l'université catholique Peter Pasmani à Budapest, le nonce apostolique à Damas s'est fortement ému le 21 janvier 19 de l'exode massif des chrétiens de Syrie.
Alors, sait-on combien sont-ils alors?
Alors, les chrétiens représentaient encore le quart de la population en Syrie et déjà plus de 5 à 6% avant la guerre civile. Leur proportion serait actuellement tombée à environ 2%, précise le site de l'ambassade de Hongrie près du Saint-Siège.
Alors, comme vous le savez peut-être, je suis hongroise, effectivement, je suis un peu au courant et je sais que la Hongrie a beaucoup fait pour aider les chrétiens à rester chez eux, à reconstruire les maisons, les églises, etc. Non seulement l'université, mais l'État hongrois en particulier. Donc voilà, alors continuez, ma petite Christine.
Ben, j'espère que oui, alors c'est vrai que...
J'espère que ça s'arrêterait là, cette hégémonie.
Après cette information complémentaire divulguée par Elisabeth, on reprend le cours de notre émission.
Alors, donc, la cause de ce dépeuplement, bien entendu, vient de ce conflit connaissons actuellement.
Bien sûr, oui, car il a contraint effectivement des dizaines de milliers de familles à quitter le pays, mais aussi le faible taux de natalité des familles chrétiennes. Il a été également souligné que la présence chrétienne au Proche-Orient courait le risque de disparaître, non pas tant à cause de la destruction des églises, mais parce que les hommes émigrent à l'étranger, ce qui diminue le nombre de garçons chrétiens en âge de se marier.
Et voilà. Alors on sait aussi que les familles mixtes, comprenant donc un conjoint chrétien et un conjoint musulman, qui se développent de plus en plus, suivront la religion musulmane.
Ouais. Eh oui, Elisabeth, et pour revenir à cette situation, on peut la traduire en chiffres. Alors, 500 000 morts, 1,5 million de blessés, 35% des habitations endommagées et 50% d'hôpitaux dans le même état.
Ah, alors sans compter une école sur 3 détruite ou inutilisable et 70% des Syriens qui vivent aujourd'hui dans une pauvreté extrême. Alors Christine, nous allons faire une nouvelle pause musicale et reprendrons l'antenne pour un autre sujet si nous avons encore suffisamment de temps. En attendant, voilà, écoutez un petit peu de musique. Thank you. Voilà, nous revoici encore dans les studios du Radio Grand Ciel pour reprendre pour un court moment notre émission parce que nous sommes beaucoup trop bavardes et je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, quel est notre sujet maintenant, Christine ? De quoi allons-nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler du patrimoine culturel immatériel israélien à l'UNESCO.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, le 20 février 2019, Elazar Nudel, consultant, préconisait dans un article récemment écrit dans le Jérusalem Post l'inscription de la lecture de la Torah au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Alors pourtant, Israël n'est plus membre de l'UNESCO.
Ah non, c'est vrai, n'est pas membre, n'a jamais été membre d'ailleurs de l'UNESCO. Mais cela ne l'empêcherait pas, bien sûr, de présenter des dossiers à la liste du patrimoine culturel immatériel mondial. Et selon ce consultant, le patrimoine culturel israélien étant de plus en plus menacé par l'antisémitisme mondial et les risques géopolitiques régionaux, il est impératif de le préserver sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Alors, rappelez-nous, Christine, en quoi consiste le patrimoine culturel ? Parce que n'oubliez pas, nous avons un magnifique spécimen de ça, puisqu'il s'agit de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, qui est protégée par l'UNESCO.
Alors, il faut savoir qu'en fait, l'UNESCO entend par patrimoine culturel immatériel les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres, transmises à nos descendants, comme par exemple les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels, événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel.
Alors, la récente sortie d'Israël du 1er janvier 1919 de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation ne l'empêche donc en rien de proposer des éléments et inscrire sur la liste officielle du patrimoine de l'UNESCO.
C'est vrai. On se souviendra, Elisabeth, bien, par exemple, à titre d'exemple, alors que l'UNESCO, n'admit en 2011 la Palestine comme État membre à part entière, qu'en 2008, la hikaya palestinienne, c'est-à-dire le récit narratif pratiqué par les femmes, fut inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Alors, cette liste est bien sûr une mesure de sauvegarde internationale du patrimoine culturel immatériel.
Ah oui, bien sûr, hein, tout à fait. Car elle figure dans la convention adoptée par l'UNESCO en 2003 et mise en place en 2008. N'oublions pas cependant que l'UNESCO, l'année dernière, a officiellement inscrit 31 éléments venant du monde entier sur cette fameuse liste, dont l'art français de la fabrication de parfums. L'Aes Samer jordanien, c'est un art composé essentiellement de danse et de chant, interprété à l'occasion de diverses manifestations, le plus souvent lors des cérémonies de mariage.
Alors, Israël n'aura donc jamais soumis de patrimoine culturel immatériel à la liste de l'UNESCO, alors ?
Jamais, jamais soumis quoi que ce soit à l'UNESCO, mais selon ce consultant, il y aurait au moins 6 éléments emblématiques qui devraient pouvoir être soumis à l'UNESCO pour l'inscription, dont 4 sont directement liés au judaïsme.
Voilà un sujet vaste qui nous
très
attend pour la prochaine fois, dans un mois. On va donc vous retrouver dans un mois et on continuera à parler de ce sujet qui est vraiment extrêmement important.
Les éléments, voilà. Les éléments qui sont très intéressants.
Merci
d'ailleurs,
Christine, de nous avoir fait voyager à Jérusalem.
Développer.
Et je vous dis à bientôt et merci de nous avoir écoutés.
Merci à tous les auditeurs. À bientôt. Au revoir.